Très bien, alors. Bonsoir, avant toute chose. Je vais parler du rock. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, lorsque vous m'avez proposé cette... lorsque j'ai eu la proposition de la part de Sylvain, puis de Terence, de venir à Signal sur Bruit, au début, spontanément, on a pensé à la question du son dans les arts plastiques. Bon. Et puis en fait, c'était pas forcément quelque chose vers quoi j'avais envie d'aller. Et puis on a eu un deuxième sujet, et c'est le sujet de ce soir. Alors, d'abord, je voudrais dire que sur la question de la radio, je suis très intéressé par la radio en tant que dispositif d'art contemporain. Je crois vraiment qu'il s'est toujours passé quelque chose au niveau de la radio, du temps de l'analogique, du temps du numérique. Je pense que la radio, dans son changement d'outils, du magnétique au numérique, hein, pose des questions extrêmement intéressantes. Elle était une mémoire sonore, des archives, et à l'ère du numérique, avec les nouveaux outils, elle pose à la fois des problèmes conceptuels, et en partie drainée par la question du web, de la radio web. Et donc tout cela est d'autant plus intéressant que, en l'occurrence, traiter du rock fait sens à la radio. Parce que parler du rock pose aussi pour moi la question de l'endroit où on parlait. Parce que je ne suis absolument pas un historien du rock, ni un spécialiste du rock. Je fais des livres sur la littérature et les arts plastiques, sur la photographie. J'ai traité beaucoup la question du son dans les arts plastiques, mais je crois n'avoir jamais écrit une ligne sur le rock. En revanche, force est de constater que cette musique, mais de quelle musique s'agit-il ? C'est un peu la rencontre, le sens de la rencontre de ce soir. Cette musique m'a toujours accompagné. Et elle m'a aussi toujours interrogé, précisément parce que j'avais du mal à la penser. Il y a dans le rock en tant qu'objet théorique, un problème pour moi qui est lié à plusieurs paramètres que je vais essayer d'exposer ce soir. D'abord, avant toute chose, il va de soi que le rock est un art, si je puis dire, enfin, sur une espèce de réflexion académique qui a pu exister jadis sur une échelle dans la valeur des arts, dans la sous-culture, la musique sérieuse ou les musiques populaires. Pour moi, ce n'est absolument pas un problème. Le rock existe en tant qu'espace artistique. Et vraiment, la question de le situer en tant qu'art plus ou moins sérieux que d'autres musiques ou que d'autres disciplines ne me paraît pas très pertinent. Le pop art dans les années 50-60, et puis bien sûr toute la présence des codes de la sous-culture, de la série B aujourd'hui dans l'art contemporain font que ce débat, ce qui a pu exister, enfin qui a été encore vif dans les années 80, c'était un débat qui a existé, mais me paraît absolument plus pertinent. Il y a une espèce d'espace artistique du rock, bon, enfin, qui ne me paraît même pas intéressant d'aborder, qui plus est. Les passerelles entre le rock et les autres arts sont constantes, enfin, du Velvet Underground avec Andy Warhol, jusqu'à Sonic Youth avec les plasticiens. Pensons aussi au cinéma, chez Antonioni, chez Wim Wenders. Wim Wenders travaillait avec Ray Cooder, et puis dans un film comme Jusqu'au bout du monde, la bande originale du film est le véritable Woozwood de la planète rock. De la même manière, sauf erreur de ma part, parce que il y aurait une part d'improvisation dans cette très grande part d'improvisation dans cette rencontre. Donc, des fois, j'espère ne pas trop dire d'approximation, mais si ma mémoire est bonne, Philippe Grandrieux, dans son film sombre, à la musique de Suicide et d'Alan Vega pour l'accompagner, on peut penser bien sûr aux films de Gus Van Sant, qui sont également dans ce domaine. La littérature, elle aussi, si l'on s'intéresse aux ateliers de création radiophonique de France Culture, qui existe depuis 1968, mais qui depuis une nouvelle direction depuis quelques années. De nouveaux poètes viennent, de nouveaux écrivains sont invités. Une nouvelle génération. Il est très fréquent d'entendre comme accompagnement la musique rock. Donc, si vous voulez, cette l'espace artistique du rock, sa relation avec les autres arts me paraît une telle évidence que finalement, c'est pas tellement le sujet, qui plus est en tant que corpus scientifique, enfin universitaire, corpus de recherche. On retrouvera de la même manière sa pertinence aussi bien dans le champ sociologique que politique. Du point de vue sociologique, il est évident que l'importance du rock dans le domaine des mœurs, de la libération sexuelle. D'ailleurs, Rock My Legend de Dan Graham accentue très particulièrement cet aspect de la musique rock, sa relation justement, enfin, la manière dont il porte les idéaux d'une jeunesse et de certaines utopies, en tout cas pour certaines périodes aussi, pour les années 60-70, parce qu'après ça deviendra probablement autre chose. Sans compter la mode, toujours du point de vue sociologique, la mode rock est très importante. Pensez au punk, le punk c'est Malcolm McLaren et Vivian Westwood, et puis pensez à quelqu'un comme Jean-Paul Gaultier, un styliste qui a travaillé avec Clarita Mitsuko dans les années 80, avant de travailler avec Madonna. Enfin, la mode est également présente. La politique, évidemment, donc Bob Dylan et les mouvements pacifistes. L'âge des révoltes, l'âge des rébellions, même si elle est très cousue de fil blanc, comme avec le punk. Mais il n'en reste pas moins que dans les années 50, elle était peut-être plus directe. Le rock est une musique qui inquiète. Donc, si vous voulez, on voit très bien à travers ces différents paramètres artistiques, sociologiques, politiques. Alors, politique, moins connu, j'insisterai sur un autre aspect aussi, c'est du temps de la guerre froide. J'en parle d'autant plus volontiers que je parlerai beaucoup de Berlin ce soir. Donc, justement, du temps de la guerre froide, le rock a eu une importance réelle, en particulier à travers la radio. Vous savez, la radio a été un élément très important qu'a utilisé le bloc de l'Ouest pour finalement essayer de fragiliser le bloc communiste, comme le disaient certains tacticiens. On traverse plus facilement les frontières avec des ondes sonores, avec la radio, qu'avec des chars. Et donc il y avait une radio très importante qui s'appelait Radio Free Europe, qui était une radio émise par l'Occident et qui avait justement comme principe de diffuser des musiques occidentales dans le bloc communiste. Et ces musiques, c'était vraiment une manière, il y a des anecdotes, on sait que les gens les écoutaient le soir cachés sous l'oreiller, bon. Mais justement ils écoutaient, c'était une manière d'avoir accès au monde de l'Ouest, précisément, à travers les ondes sonores, et la musique là jouait son rôle. Voilà, donc comme vous le voyez, le corpus est conséquent, et que ce soit du point de vue artistique, sociologique ou politique, à chaque fois, on a véritablement on a des éléments très riches. Il n'en reste pas moins que je bute sur certains aspects. Alors, les aspects sur lesquels je bute et qui rendent difficile pour moi une réflexion sur la musique rock, et encore une fois, qui je trouve vraiment peut trouver tout à fait son élément dans l'espace radiophonique. Les aspects, c'est la relation à l'argent. Alors, la relation à l'argent, évidemment, c'est pas quelque chose de naïf que je suis en train de dire. Mais c'est-à-dire, qu'il ne s'agit pas de considérer la relation à l'argent comme une conséquence. Ou plus exactement, si, il s'agit de la considérer comme comme étrangère à elle-même, c'est-à-dire il y aurait une cause peut-être qui serait liée tout de même au marketing et ensuite à la mobilisation médiatique. C'est-à-dire que là, tout de même, il y a une part indiscutablement de manipulation dans la vente des musiques rock, toute une stratégie. Très souvent, les musiciens rock qui ont laissé leur peau. Enfin, je vais parler de d'ailleurs toute une histoire du musicien maudit, du chanteur maudit, enfin, il y a toute une tradition, mais en général, ce sont les chanteurs, les guitaristes qui y restent, ce sont rarement les personnes qui, dans l'ombre, peuvent tirer les ficelles du système. Alors ça, pour moi, c'est un problème, disons, de cette idée de manipulation. Encore une fois, elle est liée à l'idée même d'art. L'idée même de représentation suggère qu'on est dans l'illusion. Mais tout de même, là, il y a un aspect avec lequel j'ai un peu de mal à me départir, surtout qu'il y a un deuxième problème avec lequel il faut penser, et c'est d'ailleurs très pervers parce que c'est intimement lié, c'est le fait que, en général, on découvre le rock quand on est adolescent. C'est-à-dire qu'il s'accompagne d'un certain émoi qui est celui de la découverte du corps, des corps, du monde, des sens, un moment finalement de découverte première. Et du coup, cette musique rock va garder cette empreinte de ses premières sensations. Il y a en fait, ça pourrait tout à fait correspondre à une figure de rhétorique qui est l'anamnèse. Vous la connaissez à travers l'œuvre de Marcel Proust, puisque c'est la fameuse Madeleine de Proust. Hein. C'est-à-dire, c'est un élément qui tout d'un coup ramène le sujet aux portes de son passé, et son passé, dans une espèce d'effet retour, revient avec fulgurance dans le présent. Bon, vous avez ça admirablement traité chez Chris Marker dans La Jetée. C'est justement tout un jeu entre le passé et le présent du personnage, enfin, narrateur, pas narrateur du personnage. Bon, d'une certaine manière, il y a ça dans le rock, je dirais, par nature. C'est-à-dire que on découvre des musiques lorsque l'on est jeune, à un moment qui devient ensuite, avec le temps, irréversible, inéluctable, un temps sur lequel on ne peut pas revenir. Et de fait, ce temps garde une magie avec laquelle il faudra compter. Alors, si vous associez le fait qu'il y a cette espèce d'empreinte initiale, de passé qui revient dans le présent constamment, de par sa nature même, avec ensuite la manipulation possible, une manipulation possible autour du marketing, la commercialisation, des coups de boutoir médiatiques avec lesquels, quel que soit l'esprit critique que l'on peut avoir, il est très difficile tout de même de s'y soustraire. On vit dans le monde dans lequel on vit, si je puis dire. Donc, l'un dans l'autre, cela fausse, il me semble, le jugement et la perception de la musique rock. C'est ce qui fait, encore une fois, que, quelles que soient les générations, la découverte des musiques que l'on... lorsque l'on a une vingtaine d'années, sont très fortes. Enfin, je passais devant le Stade de France, j'allais à l'aéroport le 27 juillet. Le 27 juillet, c'était le jour où les Rolling Stones faisaient leur concert cet été. Il y avait le grand-père, le père et le fils. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment trois générations de transmission. Alors, je reviendrai sur cette idée de la transmission qui me semble essentielle aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup changé. Mais quoi qu'il en soit, on voit vraiment des générations successives qui veulent entretenir la flamme. Mais la flamme de quoi? Mais la flamme d'une éternelle jeunesse. Et c'est en cela qu'il y a quelque chose de fondamentalement tragique dans le rock, c'est-à-dire qu'il compose sur le passé révolu des sujets. Et ça, tout de même, c'est sa force de frappe, et ce n'est pas rien. Donc, il y a une complexité du rock en tant qu'objet théorique. Mais il n'en demeure pas moins que, pour toutes les raisons que j'ai dites avant, il y a évidemment une réalité intellectuelle du rock, artistique, sociologique, politique. Et donc se pose la question de quelle histoire du rock? Quelle histoire pour le rock? D'autant que je ne suis évidemment pas, comme je le disais de manière liminaire, un historien du rock. Alors, quelle histoire pour le rock? On peut faire référence à l'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard. J'ai fait beaucoup de tergiversations autour du titre de la soirée de ce soir. Ça continue d'ailleurs. C'est toujours peut-être à la fin. Oui. C'est le programme sans titre. C'était le titre d'un excellent magazine branché au début des années 90. Il s'appelait Magazine sans nom. Alors, en tout cas, ce soir, c'est Programme sans titre pour le moment. Pourquoi différentes tergiversations? Parce que justement, je ne sais pas trop par quel bout prendre le sujet. Alors, Histoire du rock me semblait bien. Alors, Histoire du rock avec le S entre parenthèses, le S comme histoire du cinéma de Jean-Luc Godard. Vous voyez vraiment, enfin, remettez les choses à sa juste place. Ce qui m'intéresse dans le titre de ce titre génial, de cette œuvre géniale de Godard, c'est que justement, il s'interroge sur l'histoire du cinéma. Alors, il faut quand même un instant revenir sur ce principe d'histoire du cinéma de Godard, c'est-à-dire il y a un S entre parenthèses à histoire, ce qui veut dire que, ou bien nous sommes dans l'histoire du cinéma, la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire des films, ou bien nous sommes également dans l'histoire du siècle, puisque pour Godard, le cinéma, c'est la grande aventure du XXe siècle, et donc, de fait, c'est le reflet du réel du siècle. Hein, c'est vraiment c'est une approche basinienne du cinéma qui consisterait à dire que le cinéma, c'est du réel, et de fait, le cinéma était là pour rendre compte des événements du réel, des événements du monde. Ou bien, ce sont les histoires du cinéma. Mais alors, si ce sont les histoires du cinéma, à ce moment-là, on est dans une pluralité d'histoires qui peut relever de l'anecdote, mais aussi au sens où l'anecdote fait l'histoire, enfin, au sens où l'histoire, c'est pas uniquement une histoire des dates, une histoire des événements, au sens où l'histoire, c'est aussi une histoire des sociétés, des pratiques quotidiennes, bref, une histoire aussi de la sociologie. Et puis, c'est une histoire dans la mesure où c'est une fiction. Et si c'est une fiction, pourquoi ça ne serait-elle pas celle de l'auteur, celle de Godard? Et d'ailleurs, si vous avez vu l'histoire du cinéma, vous apercevez qu'au final, cette histoire, c'est l'histoire d'un cinéphile qui est Godard en réalité. Donc, cette histoire se constitue un peu sur le modèle du héros de Borges, quand on fait une peinture et puis à la fin, un peintre fait une peinture et à la fin de sa vie, il s'aperçoit que tous les paysages qu'il avait construits sa vie durant, c'était en fait son propre portrait. Eh bien, finalement, il y aurait un peu de ça dans l'histoire du cinéma. Donc, l'histoire du cinéma serait aussi un autoportrait de Godard. Et il me semble difficile, pour toutes les raisons que j'ai dites, en particulier liées justement au fait que, comme tout le monde, j'ai découvert le rock quand j'avais 14 ans. Une histoire du rock, pour moi, c'est aussi une présence très forte de l'autobiographie, de l'autoportrait. Et je pense qu'à travers les musiques rock, on fait aussi son autoportrait, à travers les styles de musique que l'on peut aimer, parce que c'est constamment le travail de son propre passé. C'est un travail sur son propre passé. Cette histoire, d'ailleurs, de l'autobiographie, Elle me paraît intéressante après à travers les contraintes que je vais utiliser. C'est-à-dire, comme je vous le disais, je vais me poser comme contrainte, il y a un protocole de travail que j'ai eu ce soir, en particulier utiliser des musiques que j'avais dans ma discothèque, c'est-à-dire qui avaient résisté à mes déménagements successifs, au fait que j'avais pu en perdre certains disques, les aléas de la vie que tout le monde connaît. Mais c'est aussi une contrainte intéressante, c'est-à-dire que du coup, il y a certaines musiques que j'aime prodigieusement, comme le Velvet Underground, que je ne passerai pas devant parce que je ne les ai plus. Alors, on peut réfléchir aussi un instant justement sur cette question de l'histoire du rock, parce que des historiens du rock qui peuvent être assez très obtus d'ailleurs. Vous parlerons du rock en termes d'histoire des instruments de musique, d'histoire des guitares, d'histoire des impresarios, d'histoire des maisons de disques, histoire des... C'est indiscutable, enfin, je veux dire, on ne peut pas mésestimer ces questions, histoire des clubs, où se produire. Tout ça participe évidemment de l'histoire du rock, et du reste, c'est ce qui fait le génie du rock à certains égards, c'est-à-dire que le rock a une potentialité à tout absorber de l'existence, qui est assez impressionnant. Mais encore une fois, je ne suis pas un historien, je viendrai ici avec une certaine histoire de la musique que j'ai pu fréquenter. Et avec une réflexion aussi sur la notion d'essai. C'est-à-dire que dans la philosophie, il y a eu avec des personnalités comme Deleuze et Derrida, tout d'un coup le désir de penser des objets qui jusque-là, particulièrement chez Deleuze, avec le cinéma, mais vous l'avez aussi avec Abraham Moles, lorsqu'il travaille sur le kitsch, un désir de penser finalement des objets qui n'étaient pas faits pour cela, en tout cas pas directement, pas académiquement, si vous voulez. Et de fait, penser ces objets de la marge posait aussi, de fait, une question formelle, c'est-à-dire comment écrire dessus. Et la question de laisser apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire laisser cette espèce d'espace transversal. Pour moi, le modèle, c'est Roland Barthes, un espace transversal qui peut tenir de l'écriture romanesque, de l'écriture philosophique, de la linguistique, de la sémiologie, du journalisme, pourquoi pas. C'est un espace d'écriture extrêmement polymorphe. Et l'essai est un lieu de grande richesse. Il me semble qu'il apparaît avec la modernité, avec Deleuze, avec Derrida, avec Barthes. Et de fait, cela permet aussi de tenir certains propos sur certains objets précisément improbables. Alors, il y a trois contraintes que je me suis données. C'est d'avancer d'abord quasiment sans notes, ce qui peut vous faire sourire parce que vous me voyez manipuler énormément de feuilles, mais bon, traditionnellement, ce que je fais en cours, en conférence, c'est très écrit. Donc je peux vous assurer que par rapport à ce que je fais d'habitude, là, on est dans l'aléatoire sauvage. Hein, donc bon, le sujet s'y prête, vous me direz. Ensuite, il y a l'idée de travailler sur différents médiums. D'ailleurs, vous allez l'entendre du point de vue sonore. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura des vinyles, il y aura des cassettes audio. Si elles tiennent le choc, parce qu'elles ont parfois 20 ans, donc je ne sais pas dans quel état ces petites cassettes ACFA ou BASF qui proviennent du fond des âges vont tenir le cap du matériel numérique et sophistiqué qui est le nôtre de ce soir. Mais en tout cas, l'idée, c'était que j'étais dans les contraintes de ma discothèque. Ça, c'était avec... Alors du coup, il y a des ratés absolument dramatisants pour moi. Il n'y aura pas Velvet Underground, il n'y aura pas les Talking Heads, il n'y aura pas les Residents, il n'y aura pas les Pixies. Donc déjà, c'est bien de commencer par ce qu'il n'y est pas, et mon affliction est grande. Alors, l'autre aspect, bien sûr, parce que vous comprenez bien que le corpus est infini, l'autre aspect, c'est aussi la relation à l'image. Art plastique oblige, il est certain que la relation à l'image sera tout de même assez présente et permettra aussi de se promener dans ces musiques. Alors, en fait, c'est une écoute musicale assez semblable à celle que Jean-Luc André a pu faire. C'est une écoute musicale. On prendra le temps d'écouter les morceaux en entier, en intégralité. On va faire les choses de manière très, très objective. Et puis, j'en parlerai un petit peu, parfois avant, parfois après. Encore une fois, c'est un parcours tout à fait subjectif. Ce qui me renvoie à la question du titre, parce que c'est un bel acte manqué. J'ai commencé à parler du titre, des titres que je n'avais pas trouvé, et puis je ne suis même pas allé jusqu'au bout. Donc au début, on était parti sur l'idée d'histoire du rock, avec ce S entre parenthèses. Il pourrait y avoir d'autres choses. La relation à la chambre claire paraît importante. La chambre claire, vous le savez, c'est le livre de Roland Barthes sur la photographie. D'ailleurs, c'est un livre de Roland Barthes sur une photographie qu'il ne montre pas. Il montre certaines photographies, mais il ne montre pas celle dont il parle tout particulièrement, qui, encore une fois, Anamnèse, est une photographie de sa mère qui vient de décéder. Donc, Barthes, dans La Chambre claire, parle de la photographie, mais en des termes qui ne sont pas ceux d'un historien de la photographie. Il commence d'ailleurs très vite en disant « Je sais très bien ce que les historiens de la photographie vont dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. » Voilà, effectivement, tout ça pour ça, mais c'était quand même très lumineux ce qu'il mettait en place dans La Chambre claire. Mais la méthode est intéressante parce qu'elle est justement entre écriture intime, subjectivité, autobiographie, et puis sémiologie de l'image. Ensuite, il y a un autre titre auquel j'avais pensé, c'est « Un condamné à mort s'est échappé ». C'est le film de Bresson, mais j'aime beaucoup cette beauté émaciée du film de Bresson, d'ailleurs qui est très sonore, hein, qui a beaucoup intéressé les musiciens et la recherche sonore, mais ça commence avec le nom même du personnage, qui s'appelle Fontaine et qui est déjà un bruit en soi. Enfin. Donc la beauté émaciée j'ai dit breton, Bresson. Non, c'est Bresson. Hein, oui, d'accord. Il n'y a qu'une lettre. Le son diffère un peu. Alors, c'est un film comme ça très très austère et très dense. Voilà, mais bon, évidemment, ça pouvait pas, enfin, il était ridicule d'appeler cette conférence en condamné à mort, c'est échappé, vous comprenez bien. Même si je commence par la vague froide du rock, bon, là, tout de même, là, ça deviendrait lugubre. Hein. Alors, ensuite, il y a eu discographie. Alors, discographie, c'était plus intéressant. Il y avait l'idée de discothèque et puis l'idée de graphisme. Bon, mais c'est toujours insatisfaisant et je crois qu'on restera sur ces points de suspension. Alors, donc je vais commencer la programmation musicale autour de cette histoire du rock. Peut-être vous en présenter un peu les. Elle se jouera en quatre parties. La première, c'est vraiment la vague post-punk du début des années 80. Une musique qui, donc, vous l'avez compris, que j'écoutais quand j'étais un petit peu plus jeune que vous n'êtes aujourd'hui. J'avais beaucoup d'étudiants, donc encore entre 15 et 20 ans. Il n'y a pas que des étudiants, un certain nombre d'étudiants. Ensuite, on se pose la question de la généalogie du rock. Et bon, je n'avais pas de grand frère ou de grande cousine qui m'avait initié, qui m'avait expliqué ce qu'était Woodstock, les Pink Floyd ou Bob Dylan. Donc moi-même, je me suis construit une généalogie au regard de ce que j'écoutais. Et là, on se reconstruit une mémoire. Et au moment où je me suis reconstruit cette mémoire, je me suis aperçu que finalement, cette musique rock du début des années 80, elle était tombée en lambeaux. Les groupes avaient mal négocié leur célébrité et leur écriture artistique, pour beaucoup en tout cas. Et donc à ce moment-là, je me suis orienté vers d'autres domaines. À la fin des années 80, qui pouvait correspondre à la fois à la musique expérimentale et à la world music, c'est-à-dire les rapports vraiment au métissage des musiques du monde. Et tout ça sur un fond très particulier de géopolitique, puisque la fin des années 80 et 1989 est marquée par une date essentielle, dont on vit d'ailleurs totalement le contre-coup aujourd'hui avec la mondialisation, puisque le 10 novembre 1989, c'est l'ouverture du Schenkpot Charlie à Berlin et il n'y a plus de séparation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on va être dans le début d'une économie planétaire, homogène et unique, ce qui va avoir énormément d'incidence. Mais au début, c'était vécu comme une ça l'est d'ailleurs, enfin, comme une utopie. Et puis ensuite, avec la fin des années 90, c'est le point où nous en sommes aujourd'hui, une musique de type trip-hop, qui est finalement là dans la une certaine lignée de ce que pouvait être une certaine musique du début des années 80, mais avec peut-être une autre lumière. Donc on va commencer par un disque significatif d'une certaine ère punk que vous n'écouterez pas, dont vous verrez la pochette. C'est l'album des Clash, London Calling. En fait, j'aurais aimé vous faire écouter l'album suivant des Clash. Je crois que c'est celui qui suit, c'est Sandinista, qui est un triple album, qui est beaucoup plus inventif du point de vue musical, sonore, que London Calling, qui a, si vous mettez le morceau titre à part, qui, il me semble, très mal vieilli. Mais en revanche, cette pochette est absolument extraordinaire. Elle a une histoire, du reste. Alors, pour la décrire, puisque nous sommes à la radio, il s'agit d'un homme que l'on devine très fin, arc-bouté, qui est en train de faire un geste très, 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 très rock, très, très héroïque. Il est en train de casser sa guitare. En fait, c'est le bassiste du groupe, Paul Simonon, qui est en train de casser sa basse sur scène. Et vous avez donc c'est une photographie noir et blanc assez cheap, enfin avec un grain le grain de l'image est assez important, et on voit le graphisme London Calling, avec London écrit en rose et Calling en vert. Et ça, c'est une référence directe au premier disque d'Elvis Presley, où l'on voyait Elvis, donc photographie noir et blanc de la même façon. On voit, sauf que Elvis était justement dans toute la plénitude de cette musique à venir et dont il était finalement le pionnier, enfin la star pionnière d'une certaine façon. Et Elvis est écrit en rose et Presley en vert, si je ne me trompe. Et donc les Clash reprennent ce graphisme. Alors évidemment pour signifier que nous sommes là dans la mort d'une certaine idée du rock. Évidemment, d'une part, on reprend telle quelle la pochette, mais en plus, c'est significatif. Encore une fois, 56 pour le disque d'Elvis, et là, nous sommes en 79, hein, avec ce disque London Calling, nous sommes à la veille des années 80. Mais là, on est en train de casser la guitare électrique, donc vous voyez le chemin qui a été parcouru. Il est quand même explicite. Le punk est passé par là. Alors les Clash ont une position un peu à part dans le punk. C'est-à-dire à la fois, ils ont une figure de punk authentique, si vous voulez. Enfin, une figure d'authenticité que les Sex Pistols n'auront pas, justement, partie à cause de leur accointance avec la mode et le manager Malcolm McLaren qui tire avec un certain génie les ficelles du groupe. Les clashs, c'est politique. Nous sommes dans l'Angleterre, Maggie Thatcher. Nous sommes dans une politique très dure économiquement, socialement. Et c'est pour ça que j'aurais aimé vous faire écouter en réalité un disque de Sandinista, un morceau de Sandinista qui s'intitule Police on My Back. Et récemment, j'ai vu une vidéo à la Maison Rouge à Paris de Isaac Julien, une vidéo sur des émeutes dans Londres, hein, dans la communauté noire. La force iconique de cette vidéo me semble tout à fait reflétée par ce morceau des Clash. En tout cas, il faut reconnaître que c'est tentant de mettre en relation cette pochette de 56 de Presley avec celle des Clash en 79 et de voir effectivement avec ce disque une nouvelle ère qui s'ouvre, hein, une ère évidemment où le rock finalement tue le père, hein, si je puis dire, hein, et à travers cette mort du rock'n'roll apparaît peut-être un rock plus intellectuel, plus intellectualisé. Et effectivement, la New Wave, c'est de ça dont je vais vous parler essentiellement, la New Wave se faisait un devoir d'être extrêmement intellectuel, parfois avec une certaine cuistrerie d'ailleurs, mais en tout cas avec une réelle énergie. Continuons avec les Clash, et plus exactement avec le guitariste des Clash. Je range mes disques sous la console afin de m'y retrouver, parce que vous voyez, c'est tout de même assez. Il y a tout de même un certain nombre de documents sur la table. On va continuer avec les Clash, avec pour moi un disque. Enfin, on ne va pas continuer avec les Clash, mais disons que c'est lié aux Clash, avec un disque qui est absolument remarquable. Peut-être un des disques les plus importants de cette année 1981-82, puisque je vous passerai bizarrement beaucoup de disques de 1981 ou 82. C'est un groupe qui s'intitule Theatre of Eight et qui fait en 1982 un album qui s'appelle Westworld et qui est produit par Mick Jones, le guitariste des Clash. Alors, la couverture, encore une fois, la pochette, est très graphique et, comme vous le voyez dans sa présentation, c'est à la fois un mélange de masques et d'illusions, de représentations, de scènes, et surtout, c'est une référence directe à la propagande prolétarienne bolchevique et voire même, à certains égards, à l'esthétique constructiviste. Theatre of Hate, le théâtre de la haine, est un groupe extrêmement politique dans ses titres, dans ses choix musicaux, donc c'est déjà une relation avec les Clash. C'est vraiment un groupe éphémère qui fera deux disques. Il y a ensuite des relations, je crois, avec le groupe The Cult, mais qui est guère plus connu, enfin c'était une espèce de vague froide du début des années 80, mais pas très significative. Et Theater of Eight, produit avec Westworld, il me semble un disque tout à fait admirable d'inventivité, d'émotion, de tension. Donc nous allons écouter un premier morceau, Anniversary, 1982, de Theater of Eight. Jadis, j'étais très expert, mais ça a beaucoup changé pour trouver les...